1571, le film de Jonathan Mostow raconte l'arraisonnement en 1941 d'un U-boat allemand par des sous-mariniers américains. L'opération est d'autant plus importante qu'à bord du bâtiment allemand se trouve un exemplaire d'une machine à coder, une de ces fameuses machines Enigma, dont les services alliés s'efforcent de percer les secrets. Je vous passe les péripéties du film, mais sachez quand même que, comme dans tout bon spectacle hollywoodien, il se conclut par un happy end. Grâce au courage des sous-mariniers américains, Enigma est donc subtilisé et le sort de la bataille de l'Atlantique s'en trouvera modifié. Trahison fulmine les Britanniques cet exploit et nôtre, Hollywood a triché avec l'histoire. C'est vrai, tout à fait vrai. Mais ce qu'oublient peut-être un peu trop facilement nos amis anglais, c'est que l'histoire est beaucoup plus compliquée et que si les mystères de la machine à coder allemande ont été effectivement percés, c'est d'abord grâce au mérite conjugué des services français et polonais. Cette affaire a d'ailleurs été longtemps l'un des secrets les mieux gardés de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Et ce n'est qu'au début des années 70 qu'on a commencé à entrevoir la vérité et que les témoins ont reçu l'autorisation de parler. Quand j'ai appris la sortie de ce film américain, j'ai donc tout naturellement demandé à Monsieur X de me dire ce qu'il savait, lui, des secrets d'Enigma.
France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X.
Peut-être connaissez-vous cette histoire, mais elle donne bien la mesure de l'importance d'Ultra.
Attendez, Ultra, qu'est-ce que c'est Ultra ?
La source Ultra, c'est le nom de code donné par les Britanniques à toutes les informations obtenues grâce au décryptage des communications émises par les machines allemandes Enigma. On est à la fin 1940, en novembre exactement. Ultra livre une information de taille.
Quoi ?
L'annonce d'un bombardement massif de la Luftwaffe sur la ville industrielle de Coventry, selon Ultra. Plus de 500 bombardiers doivent prendre l'air en direction des côtes anglaises.
Une opération massive.
Et qui risque de faire de nombreuses victimes, car si c'est évident, les sites industriels seront d'abord visés en priorité, il y aura forcément des dégâts considérables dans la ville même.
Ça veut dire qu'il est possible de prendre des précautions, enfin de renforcer les défenses aériennes, et surtout d'évacuer les populations menacées.
Bien sûr, mais si toutes ces précautions sont prises, les Allemands sauront que les Britanniques ont eu vent de leur raid. Ils chercheront donc l'origine de la fuite. Pire, ils modifieront peut-être leur système de transmission codé. Par conséquent, agir préventivement, c'est mettre en péril la sauvegarde de la source Ultra.
Mmh. Oui, mais ne pas agir, c'est sacrifier des centaines, peut-être même des milliers de gens.
Vous avez raison. Et Churchill, car la décision finale lui est revenue, a dû se trouver en face du pire dilemme qu'il ait jamais connu.
Mmh. Un sacré cas de conscience, en effet. Et sa décision, alors ?
Coventry a été sacrifié. Car le Premier ministre a pensé avec juste raison qu'Ultra était un atout majeur dans la lutte contre Hitler et qu'il fallait donc à tout prix protéger cette source exceptionnelle d'information. Bref, il a joué l'avenir contre le présent.
D'accord, mais enfin, à quoi sert d'obtenir des informations aussi importantes si on ne peut pas les exploiter ?
C'est une question qui se pose en permanence dans tous les services secrets. Pour protéger une source, un espion, on garde longtemps sous le coude des renseignements très précieux de peur d'alerter l'adversaire.
On peut même se demander dans ces conditions si les espions servaient quelque chose. Enfin, c'est une autre question.
Oui, vous le verrez, les manœuvres de protection autour d'Ultra deviendront de plus en plus sophistiquées. Un seul exemple, à Londres, à l'état-major de la marine, on apprend la localisation exacte d'un sous-marin allemand.
Et si on envoie aussitôt un bâtiment pour le détruire, on montre qu'on peut... Des renseignements de premier plan.
C'est ça. Alors on organise une fausse reconnaissance aérienne. Et après seulement, on peut se lancer à la chasse du sous-marin, vous comprenez ?
Oui, je comprends, mais le bilan à Coventry ?
Plus de 500 morts, des milliers de blessés et une ville quasiment détruite. Vous voyez que le prix à payer pour sauver Ultra a été énorme. Mais malgré ces horreurs, je vous assure que le jeu en valait la chandelle.
Alors, cette machine Enigma, expliquez-moi ce que c'était.
Volontiers. Enigma, c'est une sorte de machine à écrire électrique. L'opérateur tape son texte en clair sur le clavier et il en ressort automatiquement crypté sur un tableau lumineux. Il peut alors le transmettre.
Par radio ?
Par radio, oui. Mmh. Et seul un opérateur possédant la même machine peut effectuer la manœuvre inverse, c'est-à-dire obtenir le texte en clair à partir du texte crypté. Naturellement, le système n'est pas aussi simple. Il faut que les deux opérateurs utilisent également un même carnet de codes qui permet de régler à l'identique les machines. Ces codes changeant régulièrement au fil des jours ou des semaines.
Ça, c'est le principe, là, mais le fonctionnement ?
Bon, écoutez, je ne vais pas me lancer dans des explications techniques que je serais d'ailleurs bien en peine de vous fournir, moi. Sachez seulement qu'à l'intérieur de la machine, il existe un certain nombre de rotors, des brouilleurs en fait, qui en tournant cryptent les uns après les autres le signal électrique émis par l'opérateur lorsqu'il tape son message.
Ouais. Et la performance de cette machine Enigma ?
Au fil des perfectionnements, car il y en a beaucoup, on calculera que la machine Enigma, celle en tout cas qui était en fonctionnement en 1939 au début de la guerre, pouvait fournir 1 000 000 000 de combinaisons.
Et donc à une époque où l'ordinateur n'existait pas, ces messages étaient indéchiffrables.
Tout à fait.
Ouais. Et c'était une invention allemande.
Oui, essentiellement. C'est un certain Scherbius qui est à l'origine d'Enigma.
Qu'était ce Scherbius ?
Un inventeur féru de technologies modernes et qui multipliait les innovations dans tous les domaines.
Une sorte de géotrouve-tout.
Exactement. Je ne sais pas comment il s'est intéressé à la cryptographie. En tout cas, cet esprit délié s'est dit qu'à l'âge de l'électricité, tous les vieux procédés de cryptographie qui venaient d'être encore utilisés pendant la guerre de 14-18 étaient à mettre au rancard. Bref, plus de crayons, plus de papier, plus de combinaisons chiffrées complexes, mais des machines.
Ouais, des machines qui font le travail à la place du spécialiste du chiffre.
Voilà.
Et ce Scherbius a essayé de vendre son invention, j'imagine.
Bien sûr, il a pensé à plusieurs clients possibles.
C'est-à-dire l'armée d'abord.
Oui, l'armée, mais aussi les entreprises.
Pourquoi les entreprises ?
Enigma leur permettait de garantir le secret de leurs communications commerciales. Et puis Scherbius a aussi contacté le ministère des Affaires étrangères.
Ça me semble plus logique. Et est-ce que le succès commercial a répondu à ses attentes ?
Non. Il ne faut pas oublier qu'à l'issue de la Grande Guerre, l'Allemagne était ruinée. C'était le marasme. Or, les machines de Scherbius n'étaient pas données.
Mmh. Ah, il aurait pu vendre son invention à l'étranger.
Sans doute. Mais cet entre-deux-guerres baignait dans une sorte d'euphorie pacifiste après la grande tuerie de 14-18. Songez par exemple qu'aux États-Unis, le secrétaire d'État Stimson a mis fin aux activités du cabinet noir.
Le cabinet noir, c'est-à-dire le service du chiffre.
Et du décryptage des communications. Mmh. Donc Stimson a supprimé ce bureau, prétexte que ce n'était ni moral ni bien élevé de lire la correspondance d'autrui.
Naïveté ?
Sans doute. Mais la donne va soudain changer en Allemagne au milieu des années 20, à cause de Churchill.
Et que vient-il faire là-dedans ?
En ces années-là, il publie un ouvrage sur la Première Guerre mondiale où il révèle que pendant le conflit, les Britanniques avaient cassé le code allemand et pouvaient lire à livre ouvert toutes les communications chiffrées de la Kriegsmarine. Pour les militaires allemands, ça a été un véritable électrochoc.
Et la chance de Scherbius, c'est ça ?
Exactement. En quelques années, ces machines vont équiper toutes les unités allemandes. Il va en vendre des dizaines de milliers. Les Enigma d'un modèle encore plus perfectionné que celui qui a été proposé aux entreprises.
Ouais. J'imagine que les services étrangers vont assez vite découvrir cette modernisation.
Naturellement, parce qu'ils captent des communications radio qu'ils sont tout à fait incapables de déchiffrer. Et les premiers à s'inquiéter, ce sont les Polonais.
Parce qu'ils se sentent directement menacés, c'est ça ?
Évidemment, la Pologne a recouvré son indépendance après la guerre, et pour exister, elle a en particulier regagné des territoires à l'ouest qui étaient avant-guerre occupés par l'Allemagne. Et les plus lucides des Polonais ne doutent pas qu'un jour ou l'autre, Berlin voudra remettre la main sur ses terres. Donc, plus que d'autres, ils sont à l'affût. Et dès la mise en service des Enigma, ils vont tout mettre en œuvre pour essayer de percer les secrets de ces machines apparemment inviolables.
Patrick Pénaud, rendez-vous avec X.
Le journaliste du Monde, Jean Planchet, spécialiste des questions militaires, a publié avant l'été un long article sur les mystères d'Enigma et la sortie très critiquée du film U-571 en Grande-Bretagne. Il confirme les craintes des Polonais. La Pologne, après la Première Guerre mondiale, avait suivi d'un œil suspicieux, non sans raison, les activités militaires de l'Allemagne qui reconstituaient plus ou moins discrètement ses forces. Les cryptographes avaient du pain sur la planche. Comme le rappelle dans une étude inédite l'historien Gilbert Bloch, la guerre de 14-18 avait vu un énorme accroissement des liaisons radiographiques à usage militaire, les messages étant captés aussi bien par leur légitime destinataire que par l'adversaire, et les systèmes de chiffrement s'étaient multipliés. Le service secret polonais, l'Expo Situra et sa section 4, commandée par le lieutenant-colonel Guido Langer, découvrirent en 1928 que Berlin utilisait un nouveau chiffre. La marine allemande avait acheté en 1926 à un docteur Scherbius des machines à crypter à usage commercial. Une machine commerciale modifiée fut mise en service le 9 février 1926, puis ce fut, en 1928, le tour de l'armée de terre qui apporta de nouveaux perfectionnements à Enigma. C'est cette dernière qui resta en service avec quelques perfectionnements jusqu'à la fin de la guerre. Ramenée aux proportions d'une machine à écrire, elle fut, selon de récentes estimations, construite par les belligérants à 40 000 exemplaires.
Le défi était colossal pour les Polonais, parce qu'on n'avait encore jamais utilisé une machine à cryptographie aussi performante.
Mmh. Alors comment ont-ils procédé ?
D'abord, les services secrets de Varsovie ont recruté une poignée de brillants mathématiciens. L'un d'eux s'appelait Marian Rejewski, et il va jouer un grand rôle dans cette histoire. En deuxième lieu, les Polonais ont réussi à s'emparer d'un exemplaire commercial d'Enigma.
Mmh. C'est-à-dire une machine beaucoup moins sophistiquée que celle qui est utilisée par les militaires allemands.
C'est juste, mais cette machine, même rudimentaire, permettait quand même de comprendre le principe du chiffrage et le fonctionnement de ces rotors dont je vous ai parlé. Et Rejewski a progressé, mais très rapidement il s'est trouvé devant une impasse. Ses recherches étaient d'autant plus compliquées que les Allemands changeaient chaque jour de clé. Mais heureusement, la chance est venue à son secours.
La chance ?
La chance, oui. Et c'est là que nous, Français, allons intervenir de façon décisive.
Ouais, les Français, les services français, vous voulez dire ?
Oui, le deuxième bureau, je vous raconte. C'est une histoire assez extraordinaire.
Mais je vous écoute.
En